Bienvenue dans CK Propos, les podcasts du CK. Un nouveau format pour vous accompagner dans vos pratiques professionnelles au quotidien. Ce numéro est consacré au droit à l'image, les critères impératifs de l'évaluation en ESSMS. Il a été conçu et écrit par Martine Jourdain-Bernard pour le CK. Bonne écoute.
Bonjour, bienvenue dans le podcast consacré à deux critères impératifs qui figurent au manuel d'évaluation publié par l'HS en 2022 et qui portent sur la qualité des établissements et des services sociaux et médico-sociaux. Donc ici, on est sur deux critères du chapitre 2. Il sera question du 225 et du 227 où on va parler du droit à l'image de la personne accompagnée et de la confidentialité de la protection des informations et données relatives à cette même personne accompagnée. Donc, ces deux critères impératifs correspondent en définitive au respect des droits fondamentaux et libertés individuelles, même s'ils ne figurent pas, ces droits et ces libertés, dans la charte des droits de la personne accueillie. On peut considérer que ces deux critères ont pris en importance dans le monde où les informations et les images circulent avec une facilité et une rapidité accrue, en particulier du fait du numérique plus récemment. Alors, pour le droit à l'image et la protection des données, quels sont les principes à respecter ? Pour le droit à l'image, en fait, c'est en vertu du respect de la vie privée que toute personne physique, vous et moi, peut autoriser ou refuser la diffusion de son image. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est distinct que je vous donne mon autorisation pour que vous me filmiez ou que vous me preniez en photo à un moment T, par exemple lors de mon anniversaire, mais c'est une autre chose que je vous autorise à céder, que je vous cède mes droits ou que je vous autorise à diffuser cette image ou cette vidéo. Donc c'est bien là le droit dont il est question, c'est la diffusion. Deuxième petite précision, quand on parle d'image dans le référentiel ou en général dans la réglementation, il s'agit de photos ou de vidéos. Et ici, dans le référentiel, il est question de cotation lors d'une visite d'évaluation. Et ce qu'on va venir coter ou évaluer, c'est l'usage, l'utilisation des images que la structure sociale ou médico-sociale va faire de ces images. Plusieurs cas de figure. On va pouvoir utiliser les images dans un trombinoscope ou utiliser les photos pour que les professionnels identifient les usagers, par exemple sur un pilulier, particulièrement dans des moments où il y a beaucoup de turnover. Deuxième cas de figure, vous pouvez utiliser les images des usagers, des personnes accompagnées, pour faire de la communication interne, par exemple le petit journal, ou des affiches d'événements festifs qui se sont déroulés, des anniversaires, des choses comme ça, ou encore pour parler de l'admission de nouvelles personnes. Et troisième usage, les images, les vidéos peuvent être utilisées dans de la communication externe, par exemple un livret d'accueil ou un site internet. Quelles sont les règles à respecter, vous allez me dire ? Eh bien, dans tous les cas, première chose, respecter le droit à la dignité des personnes. Ne pas utiliser des images dégradantes, par exemple. Ne pas non plus utiliser ces images dans un but commercial. Dès lors, si ces deux cas de figure sont écartés, si vous souhaitez reproduire et diffuser des images des personnes accompagnées, ces personnes devront vous avoir donné leur accord par écrit pour que vous diffusiez leur image. Sur cet accord, il faudra que soit précisé l'objectif de la diffusion des images, le support que vous utilisez et la durée pour laquelle l'autorisation vous est donnée. Gardez ce support, ce formulaire signé, dans le dossier de la personne accompagnée. Et donc, troisième règle, et là, c'est plutôt un conseil, excusez-moi, c'est que sur ce formulaire, vous pouvez différencier les différents niveaux que j'ai mentionnés tout à l'heure, c'est-à-dire que la personne peut vous autoriser, par exemple, à utiliser l'image uniquement en interne, mais pas en externe, ou uniquement à des fins événementielles et festives, par exemple. Je voulais juste terminer en attirant votre attention sur les réseaux sociaux. Certains professionnels ont peut-être la main un peu facile sur leur portable pour prendre en photo ou en vidéo des événements avec les meilleures intentions du monde. Posez-vous la question du contrôle que vous avez sur ces images et sur ces vidéos. C'est pour ça qu'il est important de sensibiliser les professionnels. On ne diffuse pas des images sans l'autorisation des personnes, encore une fois, par écrit. Et petit conseil, c'est important que la structure ait nommé un responsable pour la communication, c'est-à-dire qu'il ait accès à ces formulaires qui soient signés et qui pourra vérifier qu'on a bien l'autorisation des personnes accompagnées pour cette diffusion. Donc ça, c'était ce qui concernait le critère sur le droit à l'image. Deuxième critère qui est lié, c'est celui qui parle de la confidentialité et la protection des informations et données relatives à la personne accompagnée. C'est le 227. Donc ici, on parle toujours en vertu du principe du respect de la vie privée, c'est-à-dire que la personne accompagnée, d'une part, doit avoir accès aux informations qui la concernent, c'est un droit, et il a également le droit à ce que les données qui la concernent restent confidentielles et soient protégées. Vous avez bien compris, et vous le savez par votre pratique, que les informations et les données relatives aux personnes accompagnées sont nombreuses. Elles couvrent un spectre assez large. On parle de parcours, des informations qui sont relatives à la situation sociale, à la situation médicale, à certaines pathologies, à l'accompagnement, de quoi il est composé, etc. Et ces informations sont généralement partagées par des équipes relativement nombreuses. D'où l'importance de respecter cette protection et cette confidentialité. Alors, que nous dit ce critère là-dessus? Eh bien que les structures, bien sûr, ont besoin de traiter des informations, mais qu'elles doivent aussi en garantir la confidentialité, c'est-à-dire que les informations ne seront accessibles uniquement aux personnes autorisées. Et deuxième principe, la structure devra aussi garantir la protection de ces données et de ces informations. Ce qui revient un petit peu à dire la même chose, on ne peut avoir accès qu'au si on est autorisé, et donc les données doivent être protégées. Comment protège-t-on des données? Tout d'abord par des moyens physiques, c'est-à-dire que si c'est du papier, les armoires devront pouvoir fermer à clé, les ordinateurs seront fermés physiquement éventuellement, et les échanges, les transmissions d'informations seront réalisées dans des pièces fermées. Autre moyen de protéger les informations et les données, c'est des moyens organisationnels, c'est-à-dire que vous allez, vous en tant que structure, émettre des règles sur les partages d'informations. Comment ça se passe, qui transmet à qui, et pourquoi pas mentionner ces règles dans les contrats de travail. Enfin, dernière façon de protéger des données, c'est des moyens logiques, c'est-à-dire, en principe pour tout ce qui est numérique, des codes d'accès, des identifiants qui seront bien sûr fonction du poste que vous occupez et du périmètre d'intervention. S'applique aussi à ces principes le règlement général de protection des données à caractère personnel, le RGPD, et d'autre part le secret professionnel et le principe de secret partagé. Au vu de tout cela, quels conseils est-ce qu'on peut vous donner ? Je pense que c'est important que vous ayez en tête que la structure est un schéma ou une cartographie des flux d'informations et de son système d'information. C'est un document qui va un petit peu schématiser et reprendre tout ça. D'autre part, c'est important que vous disposiez d'une politique en matière de protection des données de façon à respecter le RGPD. Donc ceci se peut décliner dans un règlement intérieur, dans une charte d'usage informatique, éventuellement par des mentions, comme je l'ai dit, dans le contrat de travail. Bref, il est important que la structure se donne des règles qui soient respectées par l'ensemble des professionnels. Enfin, petit conseil, et ça fait partie également des critères qui là ne sont pas impératifs dans le référentiel, c'est que vous assuriez une sensibilisation et une formation des professionnels sur les aspects numériques, mais aussi sur des transmissions plus traditionnelles de type oral et papier, de façon à ce que les transmissions d'informations soient réalisées dans les meilleures conditions, sans que des professionnels ou des personnes extérieures aient accès à ce qu'elles ne devraient pas avoir. En conclusion, gérer des images, gérer des données relatives aux personnes n'est pas le cœur de nos métiers, certes, mais gérer des images fait partie aujourd'hui des prestations qu'on pourrait appeler annexes, c'est-à-dire qu'on imagine assez mal des structures qui ne communiqueraient pas du tout avec des images. D'autre part, la gestion des informations et des données de façon structurée est une nécessité, une obligation réglementaire, car cela correspond à un droit fondamental des personnes. Et donc les deux critères dont on vient de parler, en définitive, visent à évaluer le degré de maturité de votre structure sur ces aspects. Ce niveau, comme les deux critères sont impératifs, ce niveau doit être au moins très satisfaisant et je souhaite que ce soit le cas pendant votre visite. Je vous remercie pour votre attention.
C'était CK Propos, les podcasts du CK. Ce podcast fait partie d'une série à retrouver sur ck.fr. Et pour aller plus loin sur le sujet, retrouvez les fiches mémo des critères impératifs sur notre site. Alors à bientôt !